poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Hormis une conférence et un concert, peu d'informations locales cette semaine. Cette émission relaye une information relative à la Fédération protestante de France concernant les mutations, les tensions, les nouveaux équilibres au sein du protestantisme français. C'est ensuite une information sur l'aumônerie protestante des prisons avec une interview du pasteur Philippe Aurouze, aumônier national des prisons. Nous proposons enfin une information sur les églises chrétiennes en Iran avec les extraits d'un article de l'hebdomadaire Réforme. Information locale. Maison du protestantisme. 3 rue Claude Brousson, tout près de la Maison Carrée. Numéro de téléphone 04 66 67 97 40. Adresse mail mdp.nim@free.fr. La Maison du protestantisme vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à midi et du lundi au vendredi de 14h à 17h, et le samedi de 10h à midi. Peu d'activités en cette période de vacances scolaires à la Maison du protestantisme. Il faut pourtant signaler la conférence qui sera donnée le mardi 21 avril à 19h à la Maison du protestantisme. Ce sera une rencontre avec Myriam Laribi, qui est une journaliste indépendante, et qui interviendra autour de son dernier livre, « Palestine, le droit à l'existence ». Cette rencontre sera suivie d'un buffet solidaire avec la cantine de lutte de Nîmes. D'ores et déjà, nous pouvons annoncer le concert qui aura lieu le dimanche 10 mai à 17h au Temple de l'Oratoire. C'est Evert Van Poel qui donnera un concert de piano avec des œuvres de Mozart, de Chopin, de Liszt et de Debussy. Entrée libre, participation aux frais. C'est donc le dimanche 10 mai à 17h au Temple de l'Oratoire. Fédération protestante de France. Protestantisme français, mutations, tensions, nouveaux équilibres. Dans un contexte de transformation profonde du paysage protestant marqué par la sécularisation et la diversification des profils, la journée d'études Protestantisme français, mutations, tensions, nouveaux équilibres propose d'analyser les enseignements de l'enquête IFOP 2024-2025. 15 ans après la précédente étude, ce nouveau travail met en lumière les évolutions des sensibilités, les recompositions internes et les nouvelles pratiques au sein du protestantisme français. Une occasion privilégiée, aux côtés d'experts, de décrypter ces dynamiques et de mieux comprendre les équilibres émergents qui façonnent le protestantisme contemporain. Une journée d'études aura lieu le jeudi 7 mai. Il est important de s'inscrire à l'avance car le nombre de places est limité. Cette journée sera divisée en deux parties. D'abord de 9h30 à 12h30, mesurer les mutations, données et lignes de force. Les principaux enseignements de l'enquête IFOP. Avec l'intervention de Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Retour sur les principaux enseignements de l'enquête IFOP 2024-2025, identification des lignes de force qui structurent aujourd'hui le protestantisme français, mise en perspective de la singularité protestante dans un paysage religieux marqué par la sécularisation, la fragmentation des appartenances et l'archipélisation. Profil sociologique et positionnement politique. Avec l'intervention de Claude Dargent, professeur de sociologie politique à l'Université Paris 8. Analyse des évolutions démographiques, des catégories socioprofessionnelles et des sensibilités politiques. Le protestantisme apparaît-il comme un groupe distinctif ou comme le miroir des recompositions sociopolitiques contemporaines? Déplacement éthique et autorité normative. Avec l'intervention de Fabrice Desplans, sociologue, ancien chercheur rattaché au GSRL, directeur de SAExpo. Que met en évidence l'enquête quant à l'évolution des positions des protestants sur les enjeux sociétaux tels que l'aide à mourir, l'IVG, l'immigration ou la bioéthique? Dans quelle mesure ces évolutions traduisent-elles un écart croissant entre les positions institutionnelles et les pratiques effectives des fidèles? Dynamique évangélique, croissance, diversification, circulation. Avec l'intervention de Fabio Morin, docteur de l'École pratique des hautes études. Analyse de la progression des identifications évangéliques et pentecôtistes. S'agit-il d'une dynamique durable ou d'une recomposition plus diffuse? Un éclairage historique met en évidence les continuités et circulations internes, ainsi que la diversité des formes contemporaines de l'évangélisme. L'après-midi commencera à 14h pour se terminer à 16h30, avec tout d'abord « Comprendre les implications pour le protestantisme contemporain ». Mutation luthéro-réformée, transformation et reconfiguration. Avec l'intervention de Pierre-Yves Kirchleger, maître de conférence HDR en histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Érosion des bastions historiques, recomposition urbaine, montée de profils adultes en reconversion, évolution du rapport à l'écriture et des pratiques. S'agit-il d'un déclin, d'une transformation ou d'une reconfiguration du modèle luthéro-réformé? Interpréter les recompositions, enjeux ecclésiaux et mutations de l'engagement. Avec l'intervention de Philippe Gaudin, ancien directeur de l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Dans un contexte de pluralisation des appartenances et d'hybridation des pratiques, comment comprendre les recompositions en cours? Assiste-t-on à un déplacement des formes d'engagement? Quels enjeux pour la transmission, l'autorité et la cohésion ecclésiale? Mise en perspective générale. Avec l'intervention de Philippe Portier, co-directeur de l'Observatoire international du religieux. Minorité stable mais plurielle, engagée mais traversée de tensions internes, le protestantisme constitue-t-il un laboratoire des recompositions religieuses en contexte de sécularisation avancée? Fédération protestante de France, aumônerie protestante en prison, enjeux, parcours et perspectives. Voici les extraits d'un entretien avec le pasteur Philippe Aurouze, aumônier national des prisons pour le culte protestant. Au premier trimestre 2026, les questions autour de l'aumônerie protestante en milieu carcéral demeurent nombreuses. Ces interrogations ont été adressées tant à la commission prison du Conseil national des Églises de France qu'à la Fédération protestante de France. C'est dans cette continuité que nous avons souhaité proposer un éclairage plus global en donnant la parole à Philippe Aurouze, pasteur et aumônier national protestant des prisons. Le ministère d'aumônier, un engagement spécifique. Première question, en 2026, qu'est-ce que servir dans l'aumônerie protestante en prison? Les principales missions. C'est exercer une mission spirituelle, relationnelle et profondément humaine au cœur de l'environnement fragile exigeant et souvent blessé. C'est se mettre à disposition des personnes en détention. C'est un ministère d'Église qui repose sur quatre dimensions essentielles: la présence, l'écoute, l'accompagnement et le témoignage d'espérance. Servir, c'est être une présence pastorale dans le lieu de rupture. La prison est un espace de séparation d'avec la société, la famille et parfois de soi-même. L'aumônier protestant y porte une présence bienveillante, discrète et fiable, signe de l'accueil inconditionnel de Dieu. Mais cette présence s'offre et ne s'impose jamais. Cela passe par les visites en cellule, de l'écoute et du soutien moral et spirituel auprès des personnes en demande. L'aumônier est souvent l'un des seuls interlocuteurs avec qui la personne détenue peut parler en confiance, exprimer ses peurs, sa colère, son histoire, partager une quête de sens, dire sa foi ou ses doutes. L'aumônier anime également des temps de partage collectif, soit d'études de la Bible, soit le culte. Pour ces moments en groupe, il peut être accompagné d'intervenant. Servir dans l'aumônerie protestante des prisons, c'est aussi accepter la diversité au sein du protestantisme. Des luthéro-réformés historiques aux évangéliques charismatiques, en passant par les libristes, les baptistes, les adventistes, les salutistes, les mennonites, etc. Le panel théologique reste large. Néanmoins, une seule aumônerie portée par la Fédération protestante de France sert les personnes en détention. Quelles sont aujourd'hui les étapes pour devenir aumônier et quels sont les éléments essentiels à connaître pour s'engager dans ce ministère? Tout d'abord, être certain de l'appel. Ensuite, il est nécessaire d'avoir une confirmation de l'appel. Pour cela, le rôle de l'Église reste fondamental, tant par la prière que par le regard objectif posé sur le ministère qui me serait confié. L'aumônerie protestante propose ensuite 5 étapes. Quels sont les grands besoins actuels de l'aumônerie protestante? Les plus grands besoins de l'aumônerie protestante concernent le renouvellement des équipes, de pourvoir tous les établissements pénitentiaires d'aumôniers en nombre suffisant, tout en représentant la diversité protestante et des fonds pour l'acquisition de Bibles en langue étrangère. L'existence même des aumôneries en France est une richesse souvent méconnue. À l'échelle internationale, de nombreux pays ne disposent pas d'un tel accès au culte en détention, faute de cadres juridiques ou en raison de lois plus restrictives. L'aumônerie s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi 1905, garantissant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, y compris derrière les murs des prisons. Elle témoigne aussi de l'engagement de législateurs et de responsables institutionnels soucieux de préserver cette liberté fondamentale. Iran. En Iran, le christianisme se décline aujourd'hui en deux grands ensembles. D'abord, les Arméniens et les Assyro-Chaldéens, appartenant à diverses confessions, orthodoxes, catholiques ou protestantes. Ces deux communautés, majoritairement non persophones, sont reconnues par la Constitution de 1979 et ont le droit de célébrer leurs rites dans les limites de la loi et sont représentées à l'Assemblée des experts, ce qui est l'équivalent du Parlement. Et puis il y a les chrétiens dont la langue est le farsi, constitués majoritairement de personnes converties au christianisme du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, principale cible de l'oppression. En ces temps où il est pratiquement tous les jours question de l'Iran, j'ai trouvé intéressant de partager des extraits d'un article de Alice Papin, paru dans l'hebdomadaire Réforme du 18 avril dernier. Cet article est intitulé « La foi sous contrôle des minorités chrétiennes en Iran ». En Iran, les chrétiens arméniens, assyro-chaldéens et convertis, vivent dans un équilibre fragile. La guerre actuelle entre Israël, les États-Unis et l'Iran accentue les craintes d'une répression renforcée pour les protestants convertis. entre espoir et peur. C'est ainsi que le pasteur iranien Farid, réfugié en Europe et ancien responsable d'une église évangélique de maison en Iran, décrit l'état d'esprit des chrétiens iraniens avec lesquels il est encore en contact. D'un côté, il y a un véritable espoir. Beaucoup espèrent que la situation actuelle pourrait conduire à davantage de liberté, qu'un jour ils pourront pratiquer leur foi ouvertement sans crainte. Certains sont même prêts à payer un prix élevé pour cela. Ils se disent « peut-être est-ce le prix à payer pour un avenir meilleur ?» Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de peur, parce que dire les choses est très différent de les vivre. La guerre entraîne des souffrances bien réelles, des pertes, de l'instabilité et de l'incertitude. Quand on pense à l'Iran, on pense d'abord au chiisme. Pourtant, le pays abrite aussi des communautés chrétiennes présentes depuis longtemps, bien que minoritaires, dans la République islamique. Les estimations de la population chrétienne en Iran varient énormément selon les sources, en grande partie parce que beaucoup de convertis pratiquent leur foi en secret. Le sociologue et historien Sébastien Fatt, spécialiste du protestantisme, évalue à plus d'un million le nombre de chrétiens en Iran. L'un des aspects les plus intéressants de l'histoire des églises protestantes en Iran concerne leur relation avec les autorités, note Marcin Recepka, professeur associé à l'Institut d'études des religions de l'Université Jagellon de Cracovie en Pologne, dans la publication intitulée « Prayer and Protest ». Avant la Révolution, les églises offraient une prière spéciale pour le roi et pour le pays. Mais dans l'Iran révolutionnaire, une telle prière était interprétée comme un rejet des valeurs révolutionnaires. La foi en cachette. Partenaire du synode d'Iran, l'Action chrétienne en Orient, membre de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, souligne que le synode en tant qu'institution légale n'est plus reconnu depuis une dizaine d'années, mais les communautés protestantes qui le composent sont tolérées. Tout témoignage de foi envers des non-chrétiens reste interdit et l'accusation de prosélytisme peut conduire en prison. Les cultes en farsi sont quasiment interdits et de fortes pressions visent à isoler et diviser les différentes communautés du synode. Quant à la minorité protestante évangélique qui s'est fortement développée depuis l'arrivée des mollahs au pouvoir, elle fait l'objet d'une suspicion et d'une hostilité de la part des autorités, selon Human Rights Watch, notamment en raison de sa disposition à accueillir, voire à rechercher des convertis issus de l'islam. La foi se pratique donc cachée au sein d'églises de maison. C'était donc des extraits d'un article d'Alice Papin paru dans l'hebdomadaire Réforme du 18 avril dernier. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.